Déguillé, ça veut dire faire tomber.
Ça veut dire tomber. C'est tombé, ça, déguillé, c'est...
Il a déguillé, il est tombé, il a chuté.
Bienvenue dans Déguiller le patriarcat, la série d'été de Pour de vrai, consacrée aux luttes féministes en Suisse. Dans cette série, je retrace le mouvement féministe suisse depuis la fin du 19e siècle jusqu'aux revendications et grèves féministes actuelles, en passant évidemment par l'obtention du droit de vote des femmes en 1971. Je vous raconterai aussi le parcours de quelques figures marquantes qui ont consacré leur vie à la lutte pour les droits et l'émancipation des femmes. En d'autres termes, à déguiller le patriarcat.
Que tu veux déguiller le patriarcat ?
Épisode 8, 1991, la grande grève des femmes. Pour ce huitième épisode, il est temps de s'intéresser plus en détail à la grève des femmes de 1991. C'est, à mon sens, un des moments fondateurs du mouvement féministe moderne en Suisse, et les grèves féministes actuelles sont les héritières de cet événement historique. Avant de commencer, je rappelle que la série « Déguiller le patriarcat » est pensée pour être écoutée dans l'ordre, et si vous écoutez les épisodes précédents avant celui-ci, vous aurez une meilleure idée des luttes qui ont précédé ce grand mouvement de protestation inédit en Suisse. Pour commencer, je trouve qu'il est important de dire que cette grève a été la plus grande mobilisation publique depuis la grève générale de 1918. Très rapidement, la grève générale de 1918, ça a été une crise politique majeure, qui a été d'ailleurs réprimée par l'armée, et c'était la classe ouvrière, en fait, qui demandait des meilleures conditions de travail, une assurance vieillesse et survivant, une limitation des heures de travail dans la semaine, etc. Pour revenir à la grève des femmes, c'est Liliane Valcheschini qui a soufflé à Christiane Brunner l'idée de la grève des femmes. Christiane Brunner, normalement, si vous avez écouté l'épisode précédent, vous savez qui c'est. Et Liliane Valcheschini, c'était une ouvrière dans l'horlogerie, originaire de la vallée de Joux et syndicaliste. C'était une militante infatigable de la cause des femmes et elle avait participé, entre autres, à la lutte pour le droit de vote ou encore pour l'assurance maternité. Je rappelle qu'en 1991, il n'y a toujours pas d'assurance maternité. Ce sera d'ailleurs le sujet de l'épisode suivant. Et donc, en 1990, Liliane Valcheschini, elle est scandalisée que le droit à l'égalité, inscrit dans la Constitution en 1981, ne soit toujours pas respecté. Donc un jour, après une réunion syndicale, elle lance l'idée d'une grève des femmes. Elle convainc alors Christiane Brunner de la nécessité d'une grève et c'est Christiane qui va soumettre l'idée à l'Union syndicale suisse dont elle est alors vice-présidente. Christiane racontera qu'elle a dû se bagarrer pour faire accepter l'idée au sein de l'USS. Mais après de nombreux débats et hésitations, le syndicat accepte finalement la proposition. Si l'idée de la grève est née dans la vallée de Joux, c'est que les ouvrières sont nombreuses dans l'industrie horlogère. Mais les écarts salariaux avec leurs collègues masculins sont énormes et elles sont cantonnées aux tâches répétitives. Il y avait un immense ras-le-bol, il fallait frapper un grand coup, racontera plus tard Christiane Brunner. Et ce ras-le-bol, on le comprend, parce que, en effet, en Suisse, l'égalité des sexes est inscrite dans la Constitution depuis le 14 juin 1981. Mais dans les faits, rien n'a été mis en place pour rendre cette égalité concrète. Donc le choix de la date du 14 juin pour la grève est symbolique. C'est 10 ans, jour pour jour, après l'acceptation par le peuple de l'article constitutionnel sur l'égalité, et en plus c'est 20 ans après l'obtention du droit de vote pour les femmes. Christiane Brunner raconte.
C'est difficile à expliquer à l'étranger pourquoi le 14 juin, parce que bon, le 14 juin c'était la date en 81, c'était la date exacte de la votation qui a inscrit l'égalité pour les femmes dans la Constitution. Alors, la colère, là, elle était montée. En 10 ans, c'est rien passé.
Pour revenir à cette loi sur l'égalité, dans la Constitution, à l'article 8, alinéa 3, on peut lire « L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. » Déjà, ce qu'on peut dire de cet article de la Constitution, c'est qu'il est un peu réducteur, parce qu'il se concentre finalement sur l'égalité salariale, familiale, mais surtout, il fait référence à une loi. Or, cette loi, elle n'existe pas. Donc en fait, il n'y a pas de base légale pour faire appliquer ce principe d'égalité, et finalement, c'est ce qui est dénoncé 10 ans après que cet article a été ajouté à la Constitution. Une fois que l'USS avait accepté de soutenir l'idée, il y a eu des débats pour savoir si on allait appeler ça la fête des femmes ou la grève des femmes. Il y avait un peu de l'appréhension que grève, ça fasse trop peur, mais finalement, c'est quand même grève qui l'a emporté.
Ce qui gênait, c'était le mot grève. Journée d'action, mais pas la grève. Et puis la grève avec les femmes qui se ménagèrent, on compte.
Il faut souligner que ce n'est pas un mouvement de grève au sens strict du terme, dans le sens où les femmes n'ont pas forcément fait grève de leur emploi salarié. Elles n'ont d'ailleurs souvent pas eu le droit de le faire, les patrons étant contre, mais j'y reviendrai. Et aussi parce que les femmes au foyer, les étudiantes, etc. y ont participé. Donc c'est donc plus une grève politique qu'économique et qui s'adresse pas seulement aux employeurs, mais aussi et surtout à l'État. L'idée, c'est vraiment de faire grève de manière générale, à la maison, de pas faire le travail domestique gratuit, les courses, les corvées ménagères, le travail du care et toutes les tâches généralement réservées aux femmes, dévalorisées, mais sans lesquelles le pays ne fonctionne pas. D'ailleurs, Liliane Valcheschini aimait particulièrement le slogan « D'habitude on range, aujourd'hui on dérange ». Et parmi les slogans de la grève, dans la même idée, on trouve celui-ci « Femmes bras croisés, le pays perd pied ». Donc ces slogans, ils reflètent bien cette volonté de montrer que, sans le travail des femmes, salariées aussi bien que domestiques et gratuits, le pays ne peut pas fonctionner. C'est là que le mot « grève » prend tout son sens. Mais vous l'avez compris, dès le départ, l'idée même de grève des femmes fait grincer des dents. Et on se doute bien de quelles dents. Déjà, ce mode d'action heurte la culture suisse de paix du travail ancrée dans de nombreuses conventions collectives. Dans une interview donnée en 2019 à la Tribune de Genève, Marielle Budry, une militante de la grève des femmes, se souvient. « Lorsque nous avons organisé la conférence de presse de présentation de notre action, cela devait être en décembre 1990, c'est à moi qu'est revenu l'honneur d'annoncer la grève. En voyant l'air ahuri des personnes présentes, je me suis demandé si je m'étais trompée dans mon texte ou si j'avais dit une bêtise. Pourtant, j'avais l'habitude des réactions vives à notre égard, nous les femmes syndiquées et féministes. » Et effectivement, une fois l'intention de faire grève annoncée par l'USS, les réactions ne se font pas attendre. Des interdictions tombent. Christiane Brunner racontera plus tard que les entreprises du groupe Swatch collaient des affiches pour avertir les femmes qu'elles encouraient un licenciement en cas d'arrêt de travail. Évidemment, ces messages risquaient de compromettre le succès de la grève. Christiane racontera qu'elle a personnellement contacté Nicolas Hayek-Père, le directeur de Swatch, pour le convaincre que c'était pas contre lui, mais pour l'ensemble de la société, parce que les discriminations persistent de manière intolérable. Après ce téléphone, il a fini par retirer les affiches et distribuer des fleurs aux ouvrières. Je ne sais pas si c'est vraiment des fleurs qu'elle voulait, mais au moins il a retiré ses menaces de licenciement. Et ailleurs aussi, les patrons ne sont pas très contents. Dans le bulletin patronal du 3 mars 1991, on peut lire
« La comédie annoncée pour le 14 juin ne sert pas la cause de la paix du travail. On s'étonne que l'Union syndicale suisse se charge de la publicité, du spectacle et que le président de l'Union syndicale vaudoise qualifie cette pénible farce de « grève légitime ». Il y a 100 moyens de promouvoir une politique sans porter atteinte à autrui. En tant que de besoin, rappelons que la grève politique est illicite et que les grévistes s'exposent à des sanctions. En tant que de besoin, car nous avons non seulement le ferme espoir, mais encore quelques pressentiments que, les Suissesses ayant du bon sens, la représentation du 14 juin sera un four mémorable. »
Heureusement, effectivement, les Suissesses ont du bon sens, et ça n'a pas été un four mémorable. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de questions des femmes sur la légalité et le droit de faire grève. La plupart des patrons et employeurs refusent de donner congé aux femmes pour faire la grève. Alors on dit que le droit de grève se prend, mais en Suisse, ils se demandent, parce qu'on est le pays du consensus, et donc pour faire la grève, les femmes peuvent donc prendre un congé non payé, si leur patron l'accepte. Les organisatrices de la grève proposent plutôt de faire des pauses plus longues, toutes au même moment, pour montrer que si les femmes cessent de travailler, plus rien ne fonctionne dans le pays. À Fribourg, par exemple, l'association fribourgeoise des enseignants du cycle d'orientation avait fait une demande de congé collectif au mois de mai pour que les femmes qui souhaitent participer à la grève puissent le faire. La direction de l'instruction publique a dit non, au prétexte que les demandes devaient être faites individuellement. En réponse, 30 enseignantes ont adressé une lettre au conseiller d'État responsable de la formation. « Cher Monsieur Cottier, grâce à votre missive adressée au Gehörte Herren, donc ça veut dire « cher monsieur », de l'association fribourgeoise des enseignants du cycle d'orientation, nous avons appris que vous ne pouvez accorder le congé collectif demandé, Vous entendez par là la grève des femmes du 14 juin 1991. Dans votre lettre, vous écrivez que les femmes représentent une grande majorité du personnel enseignant. Malgré cela, votre lettre, qui nous renseigne sur ce que nous avons et n'avons pas le droit de faire le jour de la grève des femmes, est adressée exclusivement aux hommes. Cela nous paraît une raison suffisante pour faire la grève ce jour-là, par solidarité avec toutes les femmes qui ne sont jamais dignes d'être mentionnées. Vous ne mentionnez pas non plus les écolières, qui représentent également la majorité dans certaines écoles. Il semble que seuls les écoliers aient droit à l'instruction. Il y a donc bien assez d'injustices qui méritent une grève, même si, au sein du corps enseignant, l'égalité entre hommes et femmes est réalisée. En vous remerciant de votre compréhension, nous vous adressons, cher monsieur, nos salutations respectueuses. Je voulais juste vous lire cette lettre qui, je trouve, répond avec pas mal d'humour au refus de l'instruction publique fribourgeoise. Et ça donne un petit aperçu des résistances et incompréhensions auxquelles sont confrontées les femmes qui souhaitent faire grève. Le 14 juin 1991, 500 000 femmes participent à la grève des femmes. C'est un mouvement massif, spectaculaire et historique. Et ça montre bien que les femmes se sont reconnues dans les revendications formulées et veulent vraiment plus d'égalité. Durant toute la journée, des activités sont organisées dans les villes de Suisse. Les grévistes organisent des pique-niques, des spectacles et des groupes de discussion, et des groupes d'hommes solidaires gardent les enfants. C'est une vague fuchsia qui a déferlé sur la Suisse. J'avais envie de mentionner cette couleur, parce qu'en effet, le violet, c'est la couleur de la lutte des femmes pour leurs droits, mais en 1991, la Suisse se démarque en optant pour une nuance plus claire, plus proche du rose. Et lors de la grève, cette couleur a été reprise partout, sur les lieux de travail, dans les écoles, les usines et bien sûr, dans le défilé de l'après-midi. Et la grève des femmes, cette vague fuchsia, a eu un écho dans le monde entier. Les images des femmes en grève ont été vues sur les écrans de télé en Australie, au Cap et à Moscou. Alors maintenant, avec les réseaux sociaux, ça a l'air de rien, mais ça montre quand même l'importance du mouvement. Si on passe un peu à l'après, parmi les effets de cette grève, on peut penser à l'élection de Ruth Dreyfus au Conseil fédéral en 1993, après la non-élection de Christiane Brunner, dont j'ai parlé plus en détail dans l'épisode précédent. Et parmi les effets à plus long terme figure l'adoption de la loi sur l'égalité entre hommes et femmes en 1995 et l'entrée en vigueur de la solution du délai pour l'avortement en 2002 et de l'assurance maternité en 2005. Ces nouveaux droits seront d'ailleurs le sujet du prochain épisode. Mais surtout, la grève a permis d'attirer l'attention sur les questions d'égalité des sexes et de montrer que les femmes avaient une grande capacité de mobilisation et devaient être prises en compte dans la société. Un livre, intitulé « Mieux qu'un rêve, une grève », a été publié à la suite de la grève. Il rend compte de l'ampleur de la mobilisation par de superbes photos. Il revient sur la manière de faire grève dans différents corps de métier et raconte des anecdotes liées à cette journée historique. C'est d'ailleurs de ce livre que sont tirés les deux extraits que je vous ai lus. Et c'est évidemment Christiane Brunner, encore elle, qui en écrit la conclusion, sous le titre « Et après ». Je vous en lis un extrait en guise de conclusion de cet épisode. De par notre éducation, notre expérience de vie et l'accomplissement des tâches familiales, nous, les femmes, sommes en règle générale sages et patientes. D'avoir vécu collectivement le 14 juin l'expression de notre ras-le-bol, d'avoir dit ensemble que notre patience était à bout, cela a permis à chacune d'entre nous d'expérimenter le bien-fondé de la contestation. Il n'est pas nécessaire de se fondre dans le moule pour être entendu ou accepté. La révolte contre les injustices et les inégalités est une démarche saine, même si elle provoque des réactions critiques. Il est normal d'en avoir assez de l'inertie qui nous entoure et de le clamer haut et fort. D'habitude, on range, aujourd'hui, on dérange. Ce slogan magnifique, qui fleurit sur les banderoles le 14 juin 1991, s'est aussi inscrit dans la réalité quotidienne. Les controverses nées au sujet de la forme choisie pour la grève des femmes nous ont appris que de la controverse naît la richesse, que la contestation engendre l'enthousiasme et que l'enthousiasme déplace les montagnes. Je vous remercie pour votre écoute. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute, c'est gratuit et ça permet de ne pas rater les prochains épisodes. Ciao !